dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette émission qui va parler de livres. Oui, parce que avec le lutin, nous avons été un peu ambitieux quand on vous a annoncé un bilan livre-ciné. Quand on a préparé le conducteur de l'émission, on s'est dit on n'a pas 12 heures non plus, donc ça va être compliqué. Voilà, donc on s'est dit on va faire les 10 livres préférés de l'année. Comme ça, comme c'est avant que le Papa Noël passe, vous pouvez toujours éventuellement commander au Papa Noël le livre qu'on vous aura donné envie de lire ou d'offrir. Oui, parce que le Papa Noël, il offre de votre part. Je rappelle le principe, vous écrivez une lettre au Papa Noël, le Papa Noël se dit « Ah, ouais, vous précisez le prénom de la personne aussi, hein, parce que Papa Noël n'est pas tout deviné non plus. » Et il récupère le truc, et puis il va le livrer, ou il va le donner à la personne qui a été sur la liste. Voilà. On s'est dit « On va scinder en deux. » Donc là, on fait les livres, et début de janvier, comme d'habitude, on fera un bilan ciné. De toute façon, bilan ciné, en gros, comme c'est sur des plateformes, en ligne et que ça part pas tout de suite, vous aurez largement le temps d'aller voir ce qu'on vous préconise de voir. Donc, oui. Alors, on a une petite précision avec le lutin. Voilà. Alors, les bestioles, là, Zigoto et Tartine, ils vont se calmer sur notre panier quand même. C'est notre panier. Hein, voilà. Alors, on les a vus. On vous a vus. Alors, vous allez vous calmer tout de suite. On vous le prête, le panier, mais vous ne nous le prenez pas. Sinon, Tata Lisa va sévir. Voilà, voilà, voilà. Non, mais on vous a l'œil, hein, les bestioles. Hein. Faites attention. Alors, on va commencer tout de suite en musique et on va attaquer donc les deux premiers livres. Donc, on fera deux livres, une chanson, trois livres, une chanson, hein, histoire que tout le monde ait le temps de noter, voilà, et que le Papa Noël, il essaye d'intégrer tout, parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Allez, on commence en musique avec MC Solar, Nouveau Western, et on se quitte le temps que Monsieur MC Solar nous parle de Nouveau Western. Mais moi, j'aime bien les anciens aussi. Bon, ils s'en foutent, le lutin, il n'aime pas les westerns, alors...
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me duque. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry désormais est proche de Gare de l'Est, il souhaite des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes, pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kuluk et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor, la vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent, la carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence, puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine, victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit et les shit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity Jane.
Bon, c'est toujours un bonheur, hein, même si cela, on est d'accord sur la question. Alors, on attaque donc dans le premier, les deux premiers. Alors, vous en avez pour, on va dire, tous les goûts. Un livre d'histoire pure et un roman historique. Alors, le premier, le livre d'histoire, ça s'appelle Le Temps des Loups, de Harald Janner. En vérité, ça s'appelle Le Temps des Loups. À l'Allemagne et les Allemands de 1945-55. Attention, c'est un essai, c'est un livre d'histoire, c'est pas un roman. Donc en fait, il explique plus exactement l'état de gravat qui existe dans de nombreuses villes d'Allemagne en 1945, puisque le pays est à terre, en ruine, et que plus de la moitié de la population a été déplacée. Parmi elles, il y a 9 millions de bombardés qui ont été évacués, 14 millions de réfugiés ou d'expulsés des territoires de l'Est, donc qui doivent revenir au sein des frontières nouvelles de l'Allemagne, et sans compter les 10 millions de travailleurs forcés détenus qui sont libérés à droite à gauche. Inutile de vous dire que, sans compter ceux qui doivent rentrer, les prisonniers de guerre qui rentrent un peu petit à petit chez eux, c'est carrément leur zéro pour l'Allemagne. Alors c'est un livre qui explique comment une nouvelle société va émerger de ce chaos, comment va être gérée la masse des portés, des évadés, des abandonnés, des militaires qui ont été déchargés, etc. Et aussi, c'est l'histoire de la mentalité, on va dire, allemande, qui va d'un côté subir d'une certaine partie l'occupation par les Alliés et les Soviétiques, et de l'autre côté, essayer de reconstruire dessus. Alors évidemment, il n'élude absolument pas le fait que la doctrine nazie ait perduré, que certaines personnes en voulaient aux occupants, d'autres personnes voulaient recréer un quatrième Reich, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de le lire, ce panorama d'une décennie qui est une des décennies, enfin qui est la décennie décisive, non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe, puisque ça va entraîner forcément un rapprochement franco-allemand, etc., etc., etc. Donc ça s'appelle Le Temps des Loups, l'Allemagne et les Allemands de 1945 à 1955, c'est Harald Janner, et c'est chez Actes Sud. En fait, voilà, donc, on avait envie de le préciser parce que c'est pas tout le temps que nous avons, en fait, on en parle des livres d'histoire, mais pas tout le temps, voilà. Alors, autre livre, et là, cette fois-ci, c'est un roman, ça s'appelle Adieu Colima de Antoine Sénanque. Alors, je vous avais parlé d'Antoine Sénanque sur Croix de Cendre, que j'avais adoré l'année dernière, oui. On est encore dans la bonne année. Oh, les vieux, vous savez, c'est ça. Ah non, mais il faut, c'est la fin de l'année, il va falloir prendre des vacances, lutin. On s'en sort pas. Et on n'est pas en vacances, lutin. On n'est pas sorti. Ah, mais pauvre, le 31, vous n'êtes pas sorti avec des gens qui s'en sortent plus déjà tout seuls. Alors, Adieu Colima, c'est un roman qui se passe, en fait, sur plusieurs endroits. Principalement dans les années 50, mi-50, fin 50, fin début 60, qui est, bah, comme le titre le précise, beaucoup rattaché au goulag de la Colima, donc à cette période-là dans l'URSS. Donc on fait la connaissance d'une jeune femme, Sila, qui a été élevée dans une certaine partie de on va dire, d'une corporation... Oh bah de tueur à gages, hein, oui, oh bah à peu près, voilà. Et elle vit à Budapest, elle a été reprise et élevée par un homme, mais simplement voilà, il s'est passé certaines choses, elle a lié connaissance avec deux frères qui se battent depuis à distance pour en fait la mainmise sur leur business. Et il s'est passé des choses lors de son internement dans un goulag de la Colima, notamment des gens qu'elle a aimés. Et en fait, ils ont un moyen de pression sur cette jeune femme. Le moyen, c'est d'éliminer tous les gens qu'elle aime. Voilà. Donc, elle protège à distance certaines personnes, notamment la femme qu'elle aime. Mais voilà, il va se trouver une vengeance qui va arriver par-dessus et elle va se retrouver entre feux croisés, mais aussi avec un désir d'arrêter cette histoire-là, de lever cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et donc, elle va rentrer dans la bagarre, si on peut dire comme ça, malgré le fait qu'elle s'était protégée, cachée et qu'elle passait sous les radars depuis des années. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau texte. Bon, c'est Antoine Sénanque, hein, donc c'est sublimement bien écrit, c'est intelligent, c'est pas forcément dense ou trop difficile à lire, au contraire, parce qu'il a une plume très fluide, très agréable, vraiment, mais c'est lourd dans le côté historique. Voilà, donc vraiment. Alors après, si vous ne connaissez pas comment marchait un goulag, quelles étaient les personnes qui rentraient, et pour rien d'ailleurs la plupart du temps, voilà, le mixage entre les tueurs, les mafieux et les gens ordinaires, et toute la hiérarchie, évidemment, des goulags, puisqu'il y avait forcément, évidemment, comme dans tout camp et dans tout endroit fermé, il y a une hiérarchie qui s'installe. Franchement, c'est très très bien fait. Puis l'histoire, les histoires qui sont racontées, que ça soit les deux frères et leurs ramifications et elles, franchement, c'est des très très jolies histoires. Ça serre le cœur, comme chez Sénanque, à chaque fois. Voilà, mais vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui aime les romans historiques, mais qui sont des vrais romans historiques, pas des trucs à l'eau de rose, un peu cucul à praline, avec une vraie base historique qui n'est pas contestable, Adieu Colima, Antoine Sénanque, il me semble que chez ses stocks. Oui, le lutin sourit et hoche la tête, donc c'est chez Stock. Voilà. Écoutez, on va passer une petite musique et après on va s'occuper. Alors là, on en a, on a trois romans, mais alors trois romans complètement différents. Alors vous allez voir, ça c'est c'est nos lectures. Hein, voilà, c'est nos lectures à lutin. Moi, je lis, lui aussi lit les mêmes livres que moi. Donc on choisit nos trucs et donc on est d'accord sur ces titres. Hein, voilà. Allez, on va écouter Gold, Plus près des étoiles. Pas forcément des étoiles. Enfin, si, des étoiles. Si, c'est des tops. Ah oui, ben voilà. Donc, c'est les étoiles. Oh là là. Oh, tu as rattrapé le coup, le LUT, c'est bien.
Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé. Sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés.
Alors, après Gold, plus près des étoiles, nous revoilà. Donc, on va parler d'abord d'un roman qui m'a été recommandé plusieurs fois par une de mes consoeurs, auteurs, qui s'appelle Dominique Bémy. C'est Le pont sur la Drina, donc de Ivo Andrić. Alors, vous pouvez le trouver au livre de poche. Voilà, comme ça, bon, ça suffit. Alors, on est en fait sur un pont qui relie, en fait, les deux rives de cette rivière qui s'appelle la Drina, donc qui est autant d'un côté en Serbie, de l'autre côté en Bosnie. Autant, on va dire, à l'Orient qu'à l'Occident, et qui se concentre, ou se concentre en fait, depuis le XVIe siècle, la vie des habitants qui soient juifs, chrétiens, musulmans de Turquie ou autres. Et ce livre-là couvre en fait pratiquement 4 siècles d'histoire de cet endroit-là, que ça soit pendant le règne des Ottomans, puis après de l'Autriche-Hongrie, et ensuite de la Yougoslavie, etc. Alors, Ivo Andrić, c'est quand même un grand romancier yougoslave qui... Il me semble qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 61, si je ne m'abuse. J'ai un doute sur le... Je sais qu'il a eu le prix Nobel, mais je doute sur la date. Je crois que c'est 61. Mais bon, voilà. Franchement, il mêle ici l'histoire, l'horreur, parce qu'il y a des conflits, etc. Et il va insérer des personnages. Voilà, il va insérer certains personnages. Alors, ça va de Radislav à Fata, qui, par exemple, va se jeter du pont parce qu'elle ne veut pas avoir... elle ne peut pas se marier de force, etc. Jusqu'à, évidemment, l'empereur François-Joseph. On va arriver en 1914 où ce pont va être endommagé, bien sûr, mais demeure toujours debout, en gros. Voilà, donc c'est vraiment... l'histoire d'un pont, on peut dire, mais l'histoire d'un pays, de plusieurs pays, de plusieurs ethnies, de plusieurs religions, de plusieurs histoires, de personnes. Franchement, c'est un roman, dès que vous le commencez, vous, littéralement, vous ne pouvez plus le quitter. Vraiment. Alors, si vous aimez les grandes fresques, les fresques, ouais, les immenses fresques, Et le fait qu'il faut toujours lier le passé au présent, ne jamais oublier pour pouvoir construire, un peu à l'instar de ce pont. Vraiment, c'est très beau. Attention, c'est pas facile à lire parce que c'est une langue très soutenue. Mais vraiment, c'est vraiment un bonheur. Et c'est aussi une ville qui est très peu connue, Visegrad, mais qui est une très très jolie ville et très ancienne. Voilà, donc écoutez, Le pont sur la Drina, Ivo Andrić. Moi je vous dis, je vous en donne pour tous les coups. Deuxième de cette petite partie, ça s'appelle... Alors attention, c'est un livre très particulier. Déjà, c'est une pavasse. Allez-y, cool. Une pavasse. Ça s'appelle Doppelgänger de Gérard Guiss. Donc en français, Guiss, mais Guiss. En catalan. C'est un livre qui fait presque 800 pages, je dois faire 760 et des poussières. Alors, nous sommes en fait à Berlin en 1945, en avril 45 exactement. Adolf Hitler se terre dans son bunker et tout le monde se raccroche un peu à tout ce qu'ils peuvent. Alors, comme c'est bientôt l'anniversaire du Führer, puisque Hitler est né le 20 avril, eh bien, il décide de fêter son anniversaire, ses proches. Et un de ses proches, donc, décide de lui offrir, puisqu'il est très féru d'horoscope, d'ésotérisme, etc., comme était souvent le régime, enfin, les membres du régime nazi, l'horoscope. Voilà. Alors, il charge une personne du staff de faire établir ce document. Le problème, c'est que dans la précipitation, l'angoisse et les bombes, hein, on est bien d'accord sur la question, ben, en fait, il se trompe de date et il donne la date du 16 avril 1889. Seulement, le problème, ça pourrait ne pas prêter trop à confusion, quoique on le sait qu'un horoscope, c'est très important, la date et l'heure de naissance de la personne. Le problème, c'est que la date de naissance du 16 avril 1889, donc même année, même mois, À 4 jours d'intervalle est né un certain Charlie Chaplin. Voilà. Et de cette coïncidence astrologique, en fait, Gérard Guiche va tirer un roman burlesque, loufoque, gros, quelquefois grotesque dans certaines scènes. Alors bien sûr, hein, ça va amener à l'inévitable défaite, on est bien d'accord sur la question, mais c'est une folie absolue. Vraiment, ça fourmille de détails. Il s'est énormément depuis, c'est un livre je crois qui porte depuis 15 ans, il s'est énormément documenté, que ça soit sur la fin de règne, on va dire, du Troisième Reich et de Hitler, et aussi sur Charlie Chaplin, et c'est raconté d'une telle manière, et je peux pas vous dire qui raconte, mais c'est absolument très drôle, il y a des comparatifs, et il y a beaucoup de similitudes, ce qui quand même, c'est là qu'on se dit quand même, c'est étrange qu'une personne qui soit née 4 jours de l'une de l'autre, même mois, même année, avait des destins complètement différents, on est bien d'accord sur la question, mais et tant de similitudes dans certaines choses qui leur est arrivées dans la vie. Voilà. C'est vraiment un roman très dense, très très dense. Perso, la meilleure partie pour moi est au milieu, mais après, c'est, voilà, il faut y aller. Vraiment, c'est un beau coup de cœur qu'on a eu, mais c'est une pavasse. Hein. Ah, ça cale les portes. Hein. Alors attention, le Papa Noël, là, s'il porte ça, il peut en porter cœur. Hein. On est d'accord. Après, si vous aimez cette plume-là de Gérard Guiche, franchement, lisez Le Cimetière. Moi, j'ai été révolutionnée par Le Cimetière et son écriture, mais vraiment, c'est un très très bon auteur. Et si vous aimez les romans historiques, mais parce qu'il y a un fond d'histoire, hein, il a bien connu sa partie, il a bien fait son travail de recherche, mais c'est loufoque. Voilà, c'est burlesque, c'est complètement barré par moments. Bref, on a passé de très bons moments. Puis alors, il y va pas avec le dos de la cuillère sur certains trucs. Bref, on s'est beaucoup amusé. Quelquefois, on a été ému. Franchement, c'est un très très bon livre. Donc, ça s'appelle Doppelgänger. Donc, de Gérard Guiche, c'est aux merveilleuses éditions, aux Forges de Vulcain. Parce que, alors, quand ils sortent un bouquin, eux, c'est toujours du bon. Vous allez voir, la couverture est très drôle. D'un côté, il y a un gros nez rouge. De l'autre côté, il n'y en a pas. Enfin, vous verrez, la couverture est pas mal aussi, si vous aimez ce genre de choses. Et dernier dont on va parler, cette fois-ci, on est toujours, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci un peu plus tôt. on a vraiment eu un coup de cœur pour ce livre-là. Ça s'appelle « Ces féroces soldats » de Joël L. Gloff. C'est chez Bûcher-Chastel, je crois. Alors, c'est un roman qui rend hommage au fils, au père, aux frères, à tous ces gens, ces hommes, qui ont été meurtris, qui ont porté une croix sur le dos, et principalement, en vérité, un tatouage assez honteux dans les selles pour certains, puisqu'en fait, c'est l'histoire assez abominable, on va dire, des malgré nous, puisque ça se passe, en fait, c'est l'histoire, plus ou moins, d'une histoire assez singulière de sa famille à lui, de l'auteur. Il va reconstituer le pulse de sa famille, notamment de cette Moselle qui est annexée par le Troisième Reich et dont les parents, enfin à l'époque, vont être enrôlés la Wehrmacht en priorité, et en principal son père va être enrôlé à 17 ans dans les SS, d'où le tatouage sous les selles, puisqu'ils portaient leur groupe sanguin sur le bras au niveau de l'aisselle pour pouvoir, s'ils étaient blessés, pouvoir les secourir tout de suite. Contrairement au commun des mortels. Hein. Les soldats lambda de la Wehrmacht, ils n'avaient pas ça. Hein. C'est l'élite, hein, dont on parlait. Et en fait, il se retrouve, ce jeune homme, en fait, incorporé de force chez l'ennemi, parce que lui, ils sont français, mais comme ils ont été annexés et qu'ils ont été un peu allemands, un peu français, un peu allemands, un peu français, il va se retrouver à lutter contre son propre camp sous l'un des pires uniformes que l'on a connu au XXe siècle. Et en fait, ces féroces soldats, c'est toute l'absurdité d'une guerre, toute l'absurdité malheureusement d'une annexion de territoire au gré des traités et des envahissements qui ne respectent pas ni la volonté des personnes qui y vivent, ni leur appartenance réelle. C'est vraiment un très, très beau roman qui a un brin dérangeant. Il est très intime, alors de temps en temps, on a eu l'impression d'un peu des voyeurs. Mais franchement, ouais, on avait l'impression de regarder par le trou de la serrure. Tiens, raison, Lutin. C'est ça. Et donc, c'était un peu dérangeant parfois, parce qu'on se disait, ah, c'est quand même intime, ce genre de choses. Mais vraiment, ça pousse à l'empathie. Ça confirme, malheureusement, que les malgré nous ont été abominablement utilisés. Et on portait la croix bien après, puisque ils ont été accusés aussi de collaboration avec l'ennemi. Excusez-moi, à un moment donné, on a un revolver sur la tempe, on réfléchit quand même pas trop. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment une très très belle histoire. Et puis c'est l'histoire des habitants de l'Alsace et de la Moselle. Certains ont été obligés de s'exiler, hein. On sait qu'il y a eu beaucoup d'exilés alsaciens qui sont venus en Périgord au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. Moi j'ai trouvé que c'était retracer les tribulations de son père, c'était un très très beau roman. Donc ça s'appelle Ces féroces soldats, et donc c'est de Joël L. Gloff. Et c'est Il a raison chez Bûcher-Chastel. Voilà. Donc ça, c'était ce dont on voulait vous parler. On va faire une petite pause musicale et on va enchaîner sur deux autres. Écoutez... on est bien d'accord, c'est encore complètement... on fait du grand écart côté bouquin, hein, vous allez voir. On va écouter Phil Collins, Another Day in Paradise. Pas sûr que ce soit un paradis. Bon, bref, on verra. Allez, et à tout de suite pour les deux autres dont on va vous parler.
Just another day for you. You and me in paradise.
c'était donc Phil Collins avec Another Day in Paradise. Et oui, le lutin a raison. On fait les 5 à la suite. Bravo. Ah ben, il y en a un qui suit le conducteur. Voilà. Moi, je suis pas. Et en plus, je viens de boire juste avant de prendre l'antenne. Du coup, je m'étouffe. Super. Allez, c'est la fin de l'année. Veuillez nous pardonner. Alors, on va parler d'un livre qui s'appelle L'étrangère aux yeux de Yuri Rikkeo. Alors, c'est un livre... comment on peut expliquer ça? En fait, c'est un personnage qui est fascinant, le personnage principal, mais qui m'a profondément énervée. Alors, qui n'a pas du tout énervé le lutin. Quoique tu l'as trouvé particulièrement... je dirais pas le mot. Ah oui, non, on ne peut pas dire le mot à l'antenne, mais c'est un mot pas très joli pour une femme. Qui, malgré tout... a de bons côtés, notamment envers sa fille, qui est quand même une belle manipulatrice. Alors attention, c'est un très, 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 très beau texte. Alors, on est en présence d'une jeune ethnographe russe qui débarque en 1947 à Olen, qui est un tout petit village au bord du détroit de Bering, qui décide en fait d'étudier la tribu Tchouktch, qui sont des éleveurs de rennes. Dans cet endroit, ils sont vraiment localisés que là. Et très vite, elle le séduit, un jeune Tchouktch qu'elle a rencontré dès son arrivée. Elle l'épouse dans la foulée et elle décide de partir vivre avec lui au sein de sa tribu. Tout simplement parce qu'elle se dit que vivre au milieu de cette tribu qu'elle veut étudier, c'est quand même le meilleur moyen de le faire de l'intérieur. Alors, l'auteur, donc Yuri Rikkeo, alors déjà, premièrement, il est issu de ce peuple-là, et vraiment, c'est un roman d'amour pour son peuple, qui est pratiquement perdu. Alors, c'est... l'histoire aussi d'un destin de cette scientifique qui est rattrapée par la passion qu'elle va développer pour ce peuple. Alors, pas forcément pour les gens quand même, hein, mais pour ce peuple-là, qu'elle était partie étudier. Et il nous explique le devoir de mémoire, le travail de mémoire qu'il doit faire pour ce peuple-là, notamment pour la subsistance des derniers chamans qui existe et dont son papa d'ailleurs, à l'auteur, était chaman aussi. Et cette jeune femme va en fait épouser les rites et les croyances de ce peuple-là jusqu'à pousser, en fait, jusqu'à être immergée complètement et à être véritablement à écarter tous les gens qu'elle a autour d'elle. Franchement, c'est très... très très beau, vraiment très très beau. C'est un regard particulier à hauteur de femme, mais d'une femme qu'on peut détester. Moi personnellement, je lui reculais des claques hein, pendant la lecture. Ah oui, oui. Voilà, donc, mais vraiment c'est très beau. Ça s'appelle L'étrangère aux yeux bleus. Si vraiment vous aimez ce genre de roman là, allez-y parce que c'est vraiment presque un chef-d'œuvre ce roman là et je le vois passer très très peu. C'est bon, là, très, très... enfin, on en entend très, très peu parler. Et c'est vraiment bien dommage. Autre livre est complètement alors, différent, cette fois-ci. Ça s'appelle « La malédiction des Stensons » de Niklas Natt-Hochdag. Alors, je sais, je vous avais gonflé avec cet auteur suédois qui est l'auteur de la sublime trilogie 1793, 1794, 1795. Je vous assure, allez lire ça, c'est un bonheur. Et donc, il revient... alors, visiblement, d'après ce que je comprends, c'est une trilogie qui est calquée sur l'histoire de sa famille. Parce que il nous explique et il nous montre l'arbre généalogique de sa famille. Il a un peu récupéré l'histoire de sa famille pour monter cette trilogie. Alors là, c'est le tome 1, hein, visiblement, en tous les cas. Nous sommes en Suède, au début du 15e siècle, donc je crois qu'on est en 1430, 35 et des poussières. Et donc, à l'époque, le roi Eric règne d'une main de fer sur ses trois royaumes scandinaves. Il y a beaucoup de familles royales qui sont voilà, qui ont encore le souvenir de la gloire d'antan, qui ne comprennent pas le joug qu'a mis ce roi sur leur terre. Et donc, parmi elles, il y a cette lignée de Sten Boson qui, en fait, dont on va suivre l'histoire de sa lignée. Donc il y a Nils Stenson qui découvre en fait un jour qu'il y a des soulèvements des montagnards qui se prémarrent dans le Nord contre le roi. Et donc il va profiter du rassemblement de sa famille pour la fête de la Saint-Jean, pour informer ses frères et pour éventuellement peut-être aller balancer son neveu qui s'appelle Mance pour se rapprocher des montagnards, pour savoir ce qu'il fomente, pour éventuellement peut-être gagner un peu plus de pouvoir et louvoyer suffisamment pour gagner quel que soit le camp qui va arriver au pouvoir. Voilà. De cette partie-là, c'est vraiment un roman. Alors, premièrement, c'est un roman exigeant, mais Niklas Natochlag, il fait pas des trucs facilos. C'est riche, ça fourmille de détails. C'est vraiment une plongée dans le 15e siècle en Suède, avec ses ramifications danoises, allemandes et autres comptoirs que possédait ce pays-là. Et l'auteur explique son histoire à lui, de sa famille, mais l'histoire de son pays. C'est à la fois sombre et lumineux. Il y a un personnage qui est une pure merveille et qui va être le fil rouge, je pense, de tout le reste. Mance est un personnage superbe, vraiment. À l'instar de Cecil Vinge dans la trilogie précédente. Mais vraiment, voilà. Donc j'ai plongé là-dessus. J'ai adoré, mais vraiment adoré, du début jusqu'à la fin. Donc La Malédiction des Stevenson de Niklas Natochlag. Et ne loupez pas, franchement c'est un très très bon écrivain. Et enfin, est-ce qu'on fait les autres? Non. Si, on va en parler un peu, mais pas. Ah oui, bon là. On parle de ce qu'on vous recommande. On va dire, le troisième qu'on vous recommande, ça s'appelle une poussée de fièvre, l'histoire de la femme qui fit chuter le Ku Klux Klan, donc c'est de Timothy Egan. Alors, on est en 1920 aux États-Unis. Comme on le sait, c'est l'âge d'or. Hein. C'était pareil en Europe. Hein. C'est fête à gogo, le jazz, le champagne, bref, les années folles. Mais c'est aussi aux États-Unis la décennie, et on va dire surtout la décennie de la haine brutale et abjecte, puisque le Ku Klux Klan, à ce moment-là de l'histoire des États-Unis, atteint son apogée. Ça fait des années hein, qu'ils sont dans les rouages, depuis la fin du 19e siècle, etc. Mais là, ils vont voir arriver à sa tête un homme qui s'appelle D.C. Stephenson, qui va se révéler être le leader le plus violent, le plus dangereux, le plus manipulateur que le Ku Klux Klan peut avoir, et d'ailleurs justement qui va permettre au clan d'étendre son influence, de pénétrer les familles, les écoles, les rassemblements du dimanche, et même jusqu'au très 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 proche du pouvoir à Washington, qui va étendre son organisation raciste partout, jusqu'à ce qu'une femme, en fait une enseignante qui s'appelle Marge Oberholzer, va faire chuter ça grâce en fait à ce qu'elle, enfin grâce à l'abomination qu'elle va subir. C'est-à-dire que elle va se retrouver dans le sillage de cet homme, et il va la kidnapper, il va la séquestrer, il va la torturer, la violer. Mais quand elle va se retrouver libre, quelques peu de temps avant sa mort d'ailleurs, elle va mourir de la suite de ses blessures et des tortures qu'elle a subies, elle va avoir le courage de parler, de dénoncer, de désigner cet homme-là et les hommes qui sont autour. Et le scandale va propulser un procès et va propulser, entre guillemets, une prise de conscience dans la société qui va amener, en fait, le Ku Klux Klan à reculer et va passer on va dire, de société secrète, mais pas secrète, omniprésente et omnipotente, à un clan raciste bas du plafond, comme on le connaît encore, puisque ça, il existe encore, hein, le clan, voilà. Mais il n'a plus l'influence qu'il avait eue. Et franchement, c'est un livre qui va vous révolter, vous répulser par certains moments, parce qu'il y a vraiment des actes et des propos pratiquement odieux. Alors, les pensées, n'en parlons pas, elles sont carrément nauséabondes, on est bien d'accord sur la question. Mais ce livre-là, en filigrane, il évoque un mal un peu plus profond, en fait. Il explique que à tout moment, ça peut ressurgir, ce genre de choses. Ces propos et ces gens peuvent revenir. Que si on gomme le passé, si on ferme les yeux sur ce qui s'est passé avant et qu'on ne l'enseigne pas et qu'on ne le redit pas, un jour ou l'autre, ces pensées racistes et ces pensées de tous bords, et malheureusement on le voit de nos jours, peuvent revenir. Alors c'est glaçant à lire, vraiment, mais je pense que c'est utile et nécessaire aussi si vous aimez ce genre de rapport. Et puis si vous ne connaissez pas le clan, c'est l'occasion ou jamais de voir à quel point ils étaient influents, maléfiquement influents. Voilà, donc ça s'appelle Une poussée de fièvre, l'histoire de la femme qui fit chuter le Ku Klux Klan, de Timothy Egan. Alors, on va vous parler de deux livres avant de vous laisser, rapidement, parce que c'est deux livres qui nous ont plu, mais qui sont pas forcément si, quand même, ils sont bien, faut quand même le dire, Lutin. Il m'a dit, je sais pas, mais si, moi, je te dis que oui, rapidement, mais on va le faire. Alors, on va parler de Outre-Monde, enfin, du premier, Outre-Monde, de Don DeLillo. Alors, attention, c'est un livre qui est très particulier, c'est un très grand roman, passionnant, mais qui est d'une exigence folle, qui est dense, qui a une très grande ampleur et grandeur dans la lecture, parce que quelquefois, ça foisonne de dialogues, ça foisonne de choses, etc. Mais attention, il y a de nombreuses pages, voire peut-être une centaine de pages, sur l'un des matchs de baseball légendaire disputé à New York en 1951, où se sont pressés absolument tout le monde dans les gradins, de Frank Sinatra à Edgar Hoover, qui était donc le chef de la CIA, etc. Et donc de toute cette voie-là, de tout ça, il fait une espèce d'histoire, de chronique de la guerre froide. Alors ça va effectivement de la guerre de la bombe atomique jusqu'à ce match de baseball, en passant par malheureusement ce qui s'est passé au Vietnam, etc. C'est une fresque, voilà. C'est une fresque absolue, Outre-Monde de Don DeLillo, mais je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment à lire, mais c'est d'une densité folle, ça accumule tout ce qu'on peut imaginer sur des décennies d'histoire américaine récente. Voilà. Donc, allez-y, mais ça peut être peu aisé à lire par moment pour certains lecteurs. Nous, on a bien aimé. Lutin a un peu moins aimé certains passages. Moi, j'ai aimé d'autres. Donc, comme quoi, voilà, il y en avait un peu pour tous les goûts. Et l'autre livre, et donc le dernier dont on parlera, ça s'appelle « La passeuse » de Michael Prazan. Je vous avais parlé de Michael Prazan pour Varlam, l'histoire de cette rencontre avec un chat sur la route d'un documentaire qu'il produisait et faisait sur les goulags. Et donc là, nous sommes en 1942 en France avec un petit garçon qui s'appelle Bernard, qui s'appelle d'ailleurs, qui est le père de Michael Prazan. Qui serre la main d'une jeune femme qu'il appelle Tata, alors qu'il la connaît que depuis quelques heures. Et en fait, lui et sa sœur ont été confiés à leur tante, par leur tante à cette jeune femme, pour les faire passer en zone libre, parce qu'ils sont juifs, et que donc ils ont peur d'être attrapé. Donc cet inconnu va les faire passer, mais au moment, ils sont dans la gare, et au moment de passer dans cette zone libre, donc la jeune femme a un moment d'hésitation en voyant des soldats sur le quai de la gare, des soldats allemands. Et en fait, ce petit garçon va prendre cette hésitation-là une grosse partie de sa vie comme le fait que cette femme était une collaboratrice. Et qu'elle a eu, elle a hésité parce que c'était des enfants, mais qu'en fait, elle travaillait pour l'occupant. Et nous, on rencontre donc Bernard, à l'âge adulte très avancé, c'est un vieux monsieur, qui va se confier à une journaliste de télévision pour raconter ce qui s'est passé. Et en fait, ses fils, donc, dont le fameux Michael Prazan, vont dérouler la pelote des souvenirs de leur père. Et ils vont découvrir que cette jeune femme, a été dénoncée à son tour à un moment donné pour ce geste-là, de ne pas avoir dénoncé ses enfants, qu'elle va être déportée à Auschwitz-Birkenau, puis à Mauthausen, puis à Ravensbrück, et qu'elle va en revenir, mais que, effectivement, Bernard a toujours affirmé que à ses enfants qu'elle travaillait pour la Gestapo jusqu'à ce qu'il la retrouve et que et qu'il s'aperçoive que en fait c'était peut-être une juste qui était ignorée et franchement c'est une histoire sur l'origine, sur les secrets, sur la perspective d'un enfant qui a vu quelque chose, qui n'a pas compris, qu'il a mal interprété ou qu'il a interprété à sa hauteur à lui et qui va évidemment bouleverser les choses et bouleverser les gens puisque en fait il a éduqué ses enfants pendant des décennies sur cette trahison de cette jeune femme jusqu'à ce que effectivement l'histoire n'est on le sait hein, peuplée n'est pas forcément peuplée que de héros et des salauds hein. Il y a quelquefois des choses qui sont beaucoup plus faciles ou simples ou plus évidentes mais qu'on ne voit pas au prime abord. Moi j'avais adoré Varlam et là l'explication des destins de ces enfants juifs à travers le propre destin de son père, du sien aussi, des années difficiles, etc. Franchement, il en a tiré des documentaires. Généralement, il tire un documentaire et puis il fait le livre après. Donc les documentaires, je crois, sont encore accessibles peut-être sur Arte ou quelque part. Alors sûrement en VOD, mais voilà. C'est vraiment toujours avec une extrême pudeur que Prazan explique les choses. Et franchement, c'est vraiment... magnifique, voilà, vraiment c'est un très très beau témoignage d'une petite histoire qui est dans la grande histoire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça s'appelle La Passeuse de Michael Prazan, et je crois que c'est aux éditions Grasset, voilà, donc écoutez, je pense que c'est bon, hein, on a tout fait, on est bon, alors écoutez, on va vous laisser pour cette semaine, la semaine prochaine, écoutez, on va faire que des chants de Noël, puisque on sera à quelques heures, deux jours et demi de Noël, enfin en tous les cas du réveillon, donc on fera que des chansons de Noël. On se donnera rendez-vous le 29 décembre aussi, mais on fera un point sur ce qu'on a vu en décembre côté ciné, documentaire, etc. Et bien sûr, le 31, on est à vos côtés pendant 3h15. Oh mes pauvres, voilà, ah bah on a fini le conducteur. Ah, ça va dépoter. Allez, on se quitte en musique. Alors nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. Vous commencez à faire des petites décorations. Nous, ça y est, on a fait les décorations et tout. D'ailleurs, il faudra qu'on pense le soir du 31 à vous poster une petite photo, hein, histoire qu'on vous montre notre déco et les petits fours, parce qu'on va pas manger beaucoup. Hein. Généralement, on aura un verre et des petits fours, hein, parce qu'on peut pas faire schroum schroum. Hein, quand on est, voilà. Donc oui, c'est un peu compliqué de manger en même temps qu'on parle. Voilà. Allez, on se quitte en beauté. Prenez soin de vous cette semaine. Écoutez, profitez. Hein, voilà, c'est pas tout le temps qu'on peut poser un petit peu son cerveau. Et on se quitte avec, comment dire, la dame qui gagne beaucoup de sous à cette période de l'année. Et on va rentrer encore des sous pour elle. Histoire que toutes les années, on s'excite bien la rondelle. Mademoiselle Maria Carré. All I want for Christmas is you. Ah, c'est pas mon choix, c'est le choix du lutin. Il m'a dit, c'est sympa. J'ai dit, ouais, enfin, c'est pas comme si on l'entendait tout le temps. Ah, écoutez, il aime bien. Il aime bien. C'est peut-être la seule chanson de Maria Carey qu'il connaît. Ciao, bonne semaine sur Liberté FM.
I don't want a lot for Christmas.